Warning.
Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
You're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden...
Is this the test now?
Yes. You're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden you look down... What?
What desert?
Doesn't make any difference. What desert is completely hypothetical.
But how come I'd be there?
Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards you.
Tortoise? What's that?
You know what a turtle is?
Of course.
Same thing.
Never seen a turtle.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life, Doctor.
24 secondes.
Nous sommes le 21 juillet 2016. Bonjour et bienvenue à Genève en Suisse. Une fois n'est pas coutume, pour ce 43e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma, de science-fiction. Je suis Nicolas Petzilas et à mes côtés Marie-Louise Gariepi.
Salut.
Aujourd'hui avec nous, alors il est réalisateur des films neutres et verso. Il est une des deux têtes créatives de Ruiz Cardino Entertainment avec Jean-Paul Cardino, qui est aussi un copain, et avec qui il a réalisé le film en partie socio-financé Sweet Girls. Et puis c'est un de mes meilleurs amis, que je n'avais pas revu depuis pas mal de temps, c'est Xavier Ruiz.
Salut à tous.
Salut, ça me fait super bizarre de faire ce podcast avec toi.
Je suis content parce que ça fait longtemps que je vous écoute, alors maintenant que je fais partie de l'aventure.
Ah ouais, c'est cool.
J'ai pas tout entendu les épisodes, mais j'en ai entendu pas mal.
Ah, c'est cool, c'est vraiment cool. Et ben, en tout cas, moi, ça fait vachement plaisir. On s'est pas vu depuis 2 ans. Et puis, ben voilà, c'est cool, on se retrouve. En plus, pour parler de cinéma, comme on aime bien, c'est chouette. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur notre site internet 24quarks.com, 24quarks.com, et sur iTunes. Et puis, si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de faire des suggestions, etc., vous pouvez nous contacter par courriel à 24quarks@gmail.com. Aujourd'hui, on a décidé de repasser à travers un des piliers du cinéma de science-fiction, c'est l'incontournable Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 82. On avait parlé de faire ça il y a une craquée de temps, puis on ne s'est jamais décidé à le faire pour vrai. Donc voilà, on y arrive enfin à Blade Runner, c'est cool.
Ouais, c'est un petit peu parce que c'est un film que Xavier aime beaucoup. Hein?
Ah voilà, c'est le top numéro 1 de ma liste des 100 films que je préfère. Donc effectivement, j'étais ravi. Déjà, j'ai pas eu besoin de le remater tout de suite pour en parler.
Ouais, c'est ça, c'est mieux.
Et puis en plus, c'est vraiment un film que j'aime tellement qu'on peut en parler autant que vous voulez.
Ah, c'est cool. Juste avant de commencer, je vais faire une petite plug. Je vais pas prendre du temps avec les plugs parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, Xavier est occupé, on n'a pas beaucoup de temps. Juste pour mentionner une série que je viens de terminer, c'est une seule saison que je viens de terminer sur Netflix. Je ne sais pas si c'est disponible en Suisse, Netflix. Oui ou non?
Oui.
Oui? Ah, cool, ouais. Cool. Ça s'appelle Stranger Things.
Ah, oh, je viens de la downloader.
Et c'est ça. Juste pour dire comme quoi, c'est un truc à voir si vous êtes fan des années 80, du cinéma des années 80, de Stephen King, de John Carpenter, de Spielberg, de toute cette gang-là. Parce que c'est vraiment dans l'esprit, c'est une série qui raconte une histoire qui se passe à cette époque-là et c'est complètement dans l'esprit des films Amblin, l'ambiance, c'est les enfants avec les vélos, les torches dans la nuit.
Je me réjouis trop.
L'ambiance est géniale, tu sens vraiment que c'est des amoureux de cette époque-là. Il y a plein de... c'est pas des clins d'œil, il y a un peu les clichés de cette époque-là, ils servent un petit peu de ça. Mais en même temps, c'est pas juste genre les gros clins d'œil à machin, à la chose, à truc, à ci. C'est sûr que tu vas remarquer des trucs, mais
pas de spoiling. Hein.
Non, pas de spoiling.
Non, on l'a pas vu.
Mais
encore.
J'ai adoré l'ambiance. Et c'est pas parfait, évidemment, mais on pourra en parler une prochaine fois. Mais en tout cas, ça vaut le coup de le voir. Donc ça s'appelle Stranger Things. C'est sur Netflix. Ça vient d'arriver sur Netflix. Il y a 8 épisodes. Et ça vaut le coup, voilà. Alors, en général, on commence par un petit résumé du film, juste pour se remettre dans le bain.
Vas-y.
Je vais le sortir. J'ai pris ça sur allociné.fr. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes sont référés un peu au texte qui vient au début du film.
Oui, mais est-ce que ça parle de quelle version, quand même?
Alors, c'est juste une introduction à l'histoire, c'est pas vrai?
Parce qu'on est déjà mal parti.
Ouais, c'est ça. Alors, le résumé, c'est le suivant. À la fin du XXe siècle, des milliers de gens partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour, les réplicants, des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être humain. À Los Angeles, en 2019, après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau des réplicants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés hors la loi. Quatre d'entre eux parviennent cependant à s'échapper et à s'introduire dans la ville. Et un agent d'une unité spéciale, un Blade Runner, est alors chargé de les éliminer. Selon la terminologie officielle, on ne parle pas d'exécution, mais de retrait. Voilà. Alors, Xavier, je sais que tu es super occupé en ce moment, donc en dehors de tes projets à travers Ruiz Cardino. Donc, juste pour dire, tu as une bande dessinée qui est en cours, là ?
Ouais, on est en production dans une bande dessinée d'un sujet un peu particulier, c'est Heidi versus Zombie. Donc, c'est la petite Heidi des Alpages qui se met à tuer les zombies qui viennent envahir les Alpes suisses. Ouais, c'est une petite BD un peu comique horreur qu'on est en train de faire avec mon partenaire avec qui je fais les films.
C'était un scénario de film à la base ou...
C'est un scénario de film, c'est toujours un scénario de film.
Ah, okay,
fait la BD là, donc en anglais et tout, pour les US. Et puis on espère toujours faire le film après.
C'est cool.
Voilà.
Donc, alors à part ça, évidemment, tu fais des réalisations pour la RTS, la télévision nationale, donc tu as peu de temps avec nous, mais c'est cool tout cela parce qu'il me semble que, je me disais tout à l'heure, on ne sait jamais vraiment. Je veux dire, c'était comme acquis qu'on adorait ce film, que c'était comme un chef-d'œuvre, blablabla, tout ça, mais on ne sait jamais comme assis puis parler de qu'est-ce qui nous fait tellement.
C'était il y a longtemps. Hein.
Ouais, c'est peut-être ça. Mais parce que Xavier, on se connaît depuis un paquet de temps. Par contre, on ne se connaissait pas à l'époque de Blade Runner, là, en 82, on ne se connaissait pas encore.
Bah, c'est connu pas longtemps après.
Ouais,
hein.
Pas longtemps après.
Il ne faut pas le dire trop, parce qu'on va passer pour des vieux.
Bon, ce qu'on fait en général, c'est qu'on commence à parler un petit peu de la première fois qu'on a vu le film, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là, comment on l'a reçu, et puis par la suite, comment t'es arrivé jusqu'à maintenant, finalement. Ben, à toi l'honneur.
Ah bah c'est gentil. Il est sorti en 82 là, je crois que c'était 83 en Suisse, je suis pas sûr que c'était en 82 parce qu'il est sorti aux US. Donc c'était la version internationale de studio là à l'époque, une des premières versions. Hein. Et moi j'avais pas l'âge quoi. Je vais balancer, hein, j'avais 12 ans, hein, 12-13 ans. Et en fait, même si 82 pour moi est la meilleure année de toute l'histoire du cinéma concernant les films qui sont sortis. C'est un petit aparté, mais c'est quand même l'année où il y a eu E.T., Conan, Pink Floyd the Wall, Blade Runner, enfin bref. Et j'en passe les meilleurs, et je suis allé au cinéma. Mais j'ai dû tricher, hein, pour qu'on me laisse passer la caisse, hein, parce que j'avais pas l'âge. Et donc j'étais voir le film et j'ai rien compris. J'ai rien compris, mais j'étais bouleversé, voilà. En une phrase, c'est ça.
Ah, waouh.
Parce que j'ai rien compris, parce que franchement, c'était un peu compliqué. Je comprenais pas les tenants et aboutissants, et je comprenais surtout pas la puissance de ce film. Et la puissance, elle est encore plus forte à l'heure actuelle, là, en 2016, qu'à l'époque. Depuis, je l'ai vu, 80 fois à peu près. Donc maintenant, j'ai compris. Et même, j'ai compris les différentes versions. Donc, voilà. C'est comme ça que je l'ai reçu.
En fait, c'est drôle parce que moi, c'est un peu la même histoire. Moi, j'avais vu ce film-là, j'avais 12-13 ans aussi. Peut-être un peu plus tard que la sortie, c'était peut-être en salle au répertoire. Il me semble que c'était en 85, j'étais rendue à Montréal, 85-86. Et j'avais absolument rien compris. J'étais allée voir le film, puis j'étais sortie avant la fin, mais vraiment presque à la fin, par exemple. Mais c'était juste, j'étais avec des amis, j'avais amené des amis voir ça. Et puis, je me sentais mal parce qu'eux autres... On était trois petites adolescentes. C'était pas le genre de film qu'on voulait voir.
Ah bah non.
Alors, pas du tout, tu sais.
C'est un peu trop sombre.
Moi, j'étais un peu... J'aimais déjà beaucoup le cinéma de répertoire, etc. Tu sais, genre, j'étais quand même curieuse puis assez ouverte au cinéma. Mais ça, c'était... Il y avait une lenteur qu'on comprenait pas. Et je l'ai revu plus tard quand, au cégep, des amis me parlaient de cyberpunk. Puis je m'étais tapé Hardware, cette espèce de petit film là, qui avait été très populaire.
Avec Iggy Pop.
Australien.
Avec Iggy Pop, un Australien qu'on devrait faire un jour.
Ouais.
Qui est peut-être un peu mal vieilli. Et puis je m'étais retapé Blade Runner parce que le gars a trippé sur Hardware et Blade Runner. Il me disait c'est les meilleurs films de l'univers, blablabla. Et en le réécoutant, j'ai fait « Oh mon Dieu, comment j'ai pu sortir du cinéma 14 ans! » C'est tellement extraordinaire comme film. Et puis, je l'ai revu, moi comme toi, c'est un film que j'ai dû voir une cinquantaine de fois, facilement. Là. Je l'ai réécouté. Puis comme je suis une grosse fan de science-fiction, d'autant plus.
Ouais.
Ouais, on s'en lasse pas. C'est là, tu vois, on l'a mis en background, puis je revois plein de petits détails que j'adore, qu'un film qui est extrêmement bien vieilli. On aurait pu faire un film comme ça l'année dernière, je trouve.
Ah ouais, clairement.
Enfin, visuellement, oui.
Visuellement, oui.
Politiquement, je crois qu'on n'oserait plus.
Ouais, probablement.
Ah, peut-être.
Voilà. C'est tellement subversif, ce film, que je pense que c'est pour ça qu'il est devenu culte, en fait.
Moi, je me rends envie d'entendre ton point de vue là-dessus, mais je vais demander à Nick, lui, quand est-ce qu'il l'a vu pour la première
fois.
Ouais,
ben, je l'ai vu aussi au cinéma, et je devais avoir 14-15 ans par là. Et moi-même, j'ai rien compris non plus. Je me rappelle à l'époque avoir beaucoup apprécié les images, l'action. À cette époque-là, je pense que je cherchais plus de l'action, t'sais, du divertissement, un truc plus. Mais je me rappelle avoir été pas mal scié par les images quand même. Puis, bon, j'étais fan de Harrison Ford, c'était après Star Wars, Raiders et tout ça. Ouais, comme tu dis, dans cette année 82 qui était hallucinante là, au point de vue du cinéma, il y avait plein de trucs tellement cool. Donc c'était surtout pour ça, surtout pour Harrison Ford. Puis ça me faisait super drôle de le voir dans un rôle qui avait tellement rien à voir avec Star Wars et Indiana Jones. Mais ouais, donc pas compris sur le moment. Je me rappelle même faire des jokes débiles pendant le film, je sais plus quoi exactement, mais je pense c'est comme tu fais quand t'es jeune, puis tu comprends pas trop, puis tu fais de l'humour parce que t'es avec des filles, puis tout ça. Enfin bref. Et donc voilà, puis alors là aussi je l'ai revu par la suite, puis c'est là où j'ai comme beaucoup plus apprécié le film pour ce qu'il est, autant pour les qualités techniques que pour l'histoire et tout le reste. Puis c'est pas mal plus tard en fait que j'ai vraiment été exploré plus en profondeur, tu sais, tout ce que ça représente, quoi. Et puis ouais, c'est toujours, et puis donc aussi vu tellement de fois depuis, toutes les versions confondues, je me rappelle plus exactement quand j'ai vu quoi, mais je sais que chaque fois qu'on parlait d'une nouvelle version, j'étais comme quoi, il faut aller la voir et tout. Mais puis c'était un plaisir de redécouvrir de découvrir en 2007 la version. C'était 2007, c'est ça?
2007, c'est 2007, la dernière version,
la toute dernière, la
final 2007 cut. C'est le director Scott,
ouais, non, ouais, c'est le final cut.
Il y avait
92, la director Scott, c'est 92.
92, ouais. Ouais, c'est ça.
92, en fait, ouais, c'est la...
Ah, je l'ai pas vu, je pense, la 2007, alors. C'est quoi?
La toute dernière?
La toute dernière, c'est avec tout fini, quoi, tout comme il faut. Il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à changer.
Ouais. Telle qu'était la...
Mais elle ressemble beaucoup à la version de 92.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, okay.
Juste les effets spéciaux sont changés, il y a plein de petits détails qui sont changés, enfin, ouais, améliorés, mais c'est...
Ok, c'est comme la version de 92, mais avec amélioration.
Ouais, ça,
c'est ça. Ouais. Genre vraiment fini, parfaite. Ouais. Tel que.
Plus besoin d'y revenir. Voyait,
voilà, là, c'est comme terminé.
Mais c'est marrant parce que la réaction des trois, c'est qu'on n'a rien compris au film. Quoi.
Ouais, la première fois, on n'a rien
compris. Et en fait, ça correspond à l'échec du film.
C'est vrai.
Parce que le film a été un flop total pour la Warner en salle, dans le monde entier.
Oui.
C'est une catastrophe.
Mais ce film, c'est une catastrophe du début à la fin. Bah, jusqu'à ce qu'ils deviennent culte.
Bah, c'est ça, en fait, ça n'a pas été une catastrophe financière dans les 20 années qu'ils ont suivi, parce que ça a été un carton en VHS, puis en DVD.
Ouais.
Et là, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent, mais ça a pris 20 ans, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, en fait.
Ouais.
C'est qu'en fait, on comprend pourquoi c'est une catastrophe. On n'a rien compris au film, on a beaucoup aimé. Mais on n'arrivait pas à le recommander. Il y en a même qui sont sortis avant la fin du film.
Ouais. Mais c'est parce que tu avais un public, genre, qui était le public style Star Wars, film d'aventure, film peut-être plus facile,
ouais,
qui allait voir des films de science-fiction. Mm-hmm. Puis tu avais un public peut-être plus de répertoire, puis ces publics-là ne se rencontraient pas.
Bah ouais. Surtout
c'était, c'était des publics complètement séparés. Puis là, arrive un film, comme tu dis, un peu philosophique, politique. Ouais. Le fait qu'Harrison Ford a mis
en confusion tout ce public là que tu dis.
Ouais, c'était un acteur mainstream, voilà, qui vient dans un film un peu obscur, enfin un truc de science-fiction un peu obscur, enfin littéralement obscur. Puis
il n'y a pas plus obscur que.
Puis enfin à tous les niveaux, quoi. C'est sûr que ça a dû en surprendre pas mal. Excuse-moi, j'allais te couper la parole. T'allais continuer.
Oui, j'allais juste demander qu'est-ce que tu voulais dire par politiquement subversif.
Si tu veux, moi, avec les années, je me suis rendu compte, à chaque fois que je le revois, je me rends compte d'une couche supplémentaire ou d'une profondeur supplémentaire de ce film.
Mm-hmm.
Je ne suis pas étonné que les scientifiques du monde entier ont élu le meilleur film de science-fiction de tous les temps de l'histoire du cinéma, Blade Runner, mm-hmm, parce que c'est le plus...
C'était pas 2001 ?
Non, c'est Blade Runner parce que c'est celui qui, parce que contrairement à 2001, c'est celui qui correspond le plus à une vision futuriste probable et même réelle en fait sur certains aspects.
Ouais. Mmh.
Et donc c'est pour ça que chaque fois que je le revois, et encore dernièrement, j'ai encore redécouvert une dimension. Bien sûr, quand il y a la dimension post-industrielle, pollution, on détruit la planète. Mais il y a une dimension, il y a quelques années, qu'on découvre, enfin, que j'ai découvert un peu plus fort de la puissance des multinationales qui dominent le monde.
Le corporatisme. Ouais.
Voilà, le corporatisme. Puis maintenant, je découvre encore plus, quand je vois justement les hiboux synthétiques, que les animaux n'existent plus, que c'est le dernier film, enfin, c'est le premier film plutôt post-spéciste, c'est-à-dire, c'est le premier film qui est après l'éradication des animaux. Mmh. Ça y est, on les a tous tués. Et en fait, c'est le premier film qui assume que l'être humain est spéciste, c'est-à-dire qu'il domine toutes les races animales et qui est prêt jusqu'à les détruire, quoi. Et en fait, ce film, il est tellement en avance que même maintenant, on découvre encore des couches qu'on ne s'attendait pas du tout à l'époque, quoi. Et c'est impressionnant, en fait. C'est super impressionnant.
C'est extrêmement pessimiste comme film.
C'est pessimiste, mais il y a toujours lueur de l'espoir hein, sur tous les êtres humains, la fin du film et tout. Bon, on va en reparler parce que la fin du film, elle est quand même forte. Hein, On peut parler des deux fins. On peut parler aussi des deux versions.
Les deux versions, ouais.
Mais quelle que soit la fin, pour moi, elles sont optimistes. Celle du studio, elle se finit dehors. Celle enfin, la cote, elle est à l'intérieur. Mais le message est un peu le même, c'est qu'ils partent.
Ouais.
Sauf que dans la version... Alors là, il y a spoiler. Hein.
Dans la version, correct, on peut y aller. On commence le podcast avec un avertissement de spoiler.
Parce que la version, enfin, la cote... c'est plus du tout suggéré, c'est pratiquement confirmé que Deckard est aussi un réplicant.
Un réplicant.
Avec la petite icône qui dépose.
Donc même si un réplicant a une telle force d'humanité s'enfuit, eh ben son humanité, la machine avec son humanité va s'enfuir et essayer de vivre sa vie. Donc c'est une sorte d'optimisme. Et quelque part, ce film va loin parce que même si la planète est détruite et même si l'humain arrive au bout, eh ben, même les machines qui ont des sentiments vont encore perdurer. C'est quand même énorme.
D'accord. Alors toi, ton optimisme, c'est dans le futur de l'intelligence humaine se passe à travers ses descendants qui seraient la machine
Alors je suis un peu plus nuancé. C'est pas l'intelligence humaine. C'est pour moi la nature reprend ses droits. C'est-à-dire que ce soit un humain ou une machine. Finalement, il y a un optimisme qui s'installe dans quel que soit l'être. Et pour moi, à la fin de Blade Runner, c'est probable que bientôt, il n'y aura plus d'êtres humains. Il y aura peut-être des machines qui ont des sentiments. Il n'y a plus d'animaux déjà. Mais ça va hyper loin, quoi. Pour moi, c'est le message, il est surpuissant, quoi.
Mais ça, c'est un des aspects de la science-fiction qui est intéressant, que je trouve qui n'est pas assez exploité. C'est la machine versus l'homme, dans le sens que la machine, comme... descendant de l'homme, c'est-à-dire qui va remplacer l'homme parce qu'à un moment donné, si on veut explorer l'espace, l'homme est très mal fait construction pour explorer l'espace.
Ouais,
parce qu'on...
Ou si l'homme, si on veut explorer une planète Terre post-nature, enfin animaux, il n'y a que la machine qui va pouvoir rester.
Potentiellement.
Ouais.
Si la Terre devient toxique.
Voilà.
Je continue à croire qu'il y a un petit peu de pessimisme par rapport au futur de nous, l'être humain, homo sapiens, sapiens.
Ah ouais? Non, mais alors, si on prend dans l'angle humain pur, on est mal. Hein.
Ah, on est très mal.
Avec
c'est extrêmement
film.
Pessimiste, ouais.
Malheureusement, il n'y a rien qui nous contredit. Enfin, moi, je vois les premiers plans du film avec cette obscurité, le pétrole, la pollution. Je ne crois pas que Shanghai est très, très différent de Los Angeles, supposé être dans 3 ans, quoi.
Ouais. C'est vrai, ça se passe que dans 3 ans. Et d'ailleurs, je voyais...
Ça se passe dans 3 ans.
2019. Et 2019. Et c'est drôle parce que quand on voit les fiches des réplicants passer, d'ailleurs, ça tournait sur Twitter, ils sont tous nés en 2016. Donc voilà, c'était l'année où on devait faire Blade Runner, c'est ça. Mais,
On est un petit peu loin encore de faire des machines comme ça.
Non, on est loin de faire les machines. Mais c'est pas ça qui est important dans le film. Ce qui est important, c'est que on est dans le film, on est dans un sale état. La planète est dans un sale état on est dans un sale état.
Ouais.
Je pense qu'on va droit dedans.
Peut-être
quoi.
Pas à ce point-là, mais
on va droit
tu vois les choses de cette manière pessimiste-là.
Bah, c'est-à-dire, quelle est la différence entre le Los Angeles 2019 de Blade Runner et le Shanghai 2016? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence. Ce n'est pas le même endroit, mais ce n'est pas une grosse, grosse différence.
Ouais.
Quelle est la différence entre Tyrell Corporation et puis je sais pas moi
Apple Corporation
et puis
tu prenais la chaîne comme exemple.
Non mais Apple ou qui tu veux, je veux dire
les grosses corporations,
n'importe quelle boîte, Google ou
quelle est la différence entre un monde où il n'y a plus de nature et un monde où on est en train d'y parvenir peu à peu. Enfin, moi, ce film, il est incroyable, hein. C'est un message. C'est un message. Ce film devrait être obligatoire pour tous les enfants.
À partir de 15 ans.
Oui, bon, il faut quand même qu'ils aient une capacité de comprendre. Donc, on a dit qu'à 12, 13 ans, 14.
On n'a rien pigé.
On n'a rien pigé, on va leur donner.
Mais je pense qu'ils sont un peu plus développés maintenant, les enfants, 12, 13 ans.
Oui, je pense aussi.
Bon, en fait, ils vivent dans une autre culture. Donc, les référents culturels exact. De Blade Runner sont peut-être plus faciles pour eux à piger exact. Parce que le cyberpunk. À l'époque, c'était quand même difficile.
Ouais,
c'était la naissance du punk, le No Future, c'était
drôle,
1979. Là.
Mais oui, mais ce qui est drôle, c'est que le visuel de Blade Runner actuel, enfin,
qu'on
on regarde maintenant, là, la version 2007, mais même qui était la version de 82, c'est le visuel de référence des 40 ans qui ont suivi.
Ah, c'est clair, ouais, ouais. Ça, ah, c'est ouais. Devenu,
donc, la norme,
visuellement,
c'est
devenu une référence. Ouais.
Bah, c'est devenu la norme. En fait, Blade Runner, la lumière, le spot qui vient dans la tronche avec les particules, les flares et les reflets, le contre-jour constant, tout le cinéma s'est calé sur Blade Runner.
C'est vrai.
Si on regarde les films avant Blade Runner, il y a toujours.
Ça fait penser au cinéma noir. Hein.
Mais oui.
Ça s'est inspiré du cinéma noir.
Mais ce que je veux dire.
Où ça, on reconnaît. Pas Rembrandt. Le Rubens, le clair-obscur, là. C'est Rembrandt.
Le clair-obscur, c'est Rembrandt.
C'est Rembrandt.
Je ne me trompe pas.
Mais je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, la généralisation et l'intensité de ce film se retrouvent dans tous les films après.
Ouais.
Tous les films de science-fiction en particulier.
Mais même ailleurs, beaucoup plus large que ça,
des Star Trek, qui était déjà une catégorie à part.
Les derniers Star Trek.
Moi, je ne considère pas ça des Star Trek. Les derniers films, là, si tu veux qu'on s'en parle, moi, je suis comme juste avant. Moi, je te parle du Star Trek. Moi, je suis une fan de Star Trek. Là.
C'est beaucoup plus lisse avant Star Trek. Moins contrasté, le Star Trek.
Oui, bien sûr, parce que Star Trek est beaucoup plus positif. C'est le contraire de Blade Runner, c'est le futur positif. Star Trek, c'est l'être humain qui réussit à devenir meilleur. Avec
la première directive.
Et puis qui deviennent des gens qui deviennent des leaders de l'espace, contrairement à
qui sont là pour réunir les peuples et tout ça.
Quand je vois le début du film de Blade Runner et son commissaire, le chef, le capitaine, et même l'inspecteur qui le suit partout, là, celui qui parle,
Edward James Olmos,
voilà, eux ils savent que c'est un réplicant. Eux, ils savent que Descartes est un
réplicant. C'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question.
Savent, puisque lui, en tout cas,
ils font appel à lui. Lui est le seul,
puisqu'il fait tous les origamis qui font référence aux rêves.
C'est vrai.
De Harrison Ford, de Descartes. Donc, si tu veux, on est en train de dire que les êtres humains sont en train d'envoyer une machine tuer d'autres machines.
Oui, c'est ça.
Mais ils sont en train de lui prévenir en même temps qu'ils savent que c'est une machine. Et donc, veut lui donner la possibilité de s'enfuir. Non, c'est un film tordu, hein. Donc, en fait,
moi, je pense que c'est la perversité. Ils s'amusent jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte.
Non, en fait, ils sont en train de dire à la machine, si tu veux survivre, il faut que tu partes. Il n'y a rien de plus humain de faire ça.
C'est vrai.
Et ouais, c'est un film de dingue, en fait. C'est un film de dingue.
C'est magnifique.
Ouais. Tu vois, là, on est... Voilà, je le savais. Tu vois, là, on a le film qui passe devant nous.
Mais
on le voit sans son, sans rien.
Ces deux plans, ils ne sont pas là du tout. Non.
Ouais, la fameuse scène, la première scène de Roy Batty.
Ouais, on le découvre dans la cabine téléphonique, qui est une scène qui est beaucoup plus tard.
Hein. Ouais, et c'est ça, c'est une scène qui a été... Ils ont mélangé plusieurs scènes en même temps. La scène avec le Chinois qui fabrique les yeux, là, je ne me rappelle plus son nom, maintenant, ça m'échappe.
Ouais, elle est... Ok, je l'ai
Chow,
vu.
Non,
je sais ça, pas. C'était en 2007, la scène du
c'est
Chinois.
Tout ça, c'était déjà dans le film original.
Il y a des montages qui sont différents.
C'est ça, il y a des astuces de montage. Si tu regardes vraiment chaque plan, tu peux voir que tel plan est tiré d'une autre séquence. Mais il faut vraiment regarder en détail. Mais c'est...
Parce que la main, là, elle n'est pas au bon endroit. Hein,
non.
C'est à la fin, justement, quand justement, il commence à mourir. Puis qu'il y a comme,
et t'as un plan.
Ça, c'est la magie du montage dans toute sa splendeur.
Ouais, t'as plein de. Surtout la version studio, je trouve que c'est encore plus fou. Parce que ça se voit plus les défauts de. Enfin. Les tricheries de montage, parce qu'ils n'ont pas pu effacer, là, les... Il y avait un doigt sur l'épaule.
Oui, il y avait un doigt sur l'épaule.
Il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas pu effacer dans la dernière
version. Ils ont corrigé tout ça.
Extraordinaire, cette scène. Extraordinaire.
Ouais. Mais quelle scène n'est pas extraordinaire dans ce film? C'est ça, le truc.
Alors, comment ça trouver les scène défauts après de Blade Runner?
Non, de quoi? Quel mot, dis-tu?
Bon, moi, je vais faire un peu la polémique, parce que pendant des années... Pendant des années, j'ai aimé la version studio.
Ah.
Et en fait, j'aime les deux versions.
Mais peut-être parce qu'on n'avait pas le choix aussi.
Non, mais même quand j'ai découvert en 92, là, j'ai vu le Director Scott. Et j'étais toujours amoureux de la version studio, en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi j'aimais autant la version studio, voire plus, que celle du réalisateur. Ça m'a pris un peu de temps à aimer les deux à part égale. Je sais que ça, c'est... Ben, là, ça, c'est vraiment une diffamation totale.
Non,
là,
mais,
ça,
non, mais je te dirais que... Je te dirais que... Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, tu sais. Puis qu'à un moment donné, je veux dire, quand tu lis le livre, d'ailleurs, on le conseille, le livre que tu m'avais prêté, Nick, sur l'histoire de
Blade Runner. Futur noir.
Dans ce livre-là, c'est tellement intéressant. Toute l'histoire de comment ce film-là a été fait, tu as l'impression que ce film-là appartient à personne. À la limite, il appartient pas plus à Ridley Scott qu'à quelqu'un d'autre, tu sais. Puis tu as plein, t'as eu tellement d'interférences. Par exemple, le scénario qui a été écrit, la première version, qui n'a rien à voir avec le livre d'une certaine façon, la première version du scénario, elle était parfaite selon tout le monde, y compris le gars qui est engagé par les producteurs pour le corriger. Mais les producteurs, ils pensaient probablement aux gamins de notre âge à l'époque, qui allaient voir Harrison Ford et tout. Et lui, il s'est dit, mais comment je corrige une version qui est parfaite? Puis c'est la même chose quand il a ajouté la voix. C'est comme s'il y avait quelque chose de puissant. Donc
ça, c'est le studio qui a ajouté.
Oui, je sais, c'est le studio qui a ajouté cette voix-là. Mais cette voix-là, elle fait très film noir aussi en même temps. Tu peux imaginer Humphrey Bogart en train de dire la voix.
C'est ça que j'aimais bien.
Tu sais, le saxophone fait très film noir, fait très époque de film noir. Donc c'est même pas, ça n'a pas dénaturé le film comme tel.
Non, moi, elle me manque, hein, dans la fin.
La voix off?
Ouais.
Ben c'est sûr qu'on a grandi avec. Moi, c'est parce que j'ai grandi avec. Mais je pense que la première fois que je l'ai vu sans voix off, j'étais comme un peu surpris.
Bah oui. Mais le truc, c'est que.
On était clairement là pour aider à la compréhension.
Mais sans voix off, le film est plus juste parce que je ne sais pas si un répliquant il peut avoir une voix off, tu vois, une pensée comme ça.
Ouais.
Tu vois.
Puis la voix off n'est pas nécessaire. Elle est superflue.
Ouais, elle est superflue, mais qu'est-ce qu'elle est romantique, quoi. Moi, j'ai adoré.
La voix off, tu la trouves romantique?
Ah ouais.
Ah, moi
elle
je sais pas,
flou,
moi
hein,
je
parce qu'elle n'a pas vraiment grand chose en vérité.
Non, c'est juste la compréhension. Tu comprends l'histoire sans la voix.
Ouais, tu comprends l'histoire. Je sais pas. Mais c'est comme la fin des deux versions. La fin, quand ils ont mis le bout de Shining à la fin de la première version du studio, quand Ridley Scott a été emprunté des plans à Stanley Kubrick. Eh ben
ah oui, à la fin, c'est la voiture qui passe, c'est des plans de Shining.
Et en fait, moi, ça m'a manqué les premières fois que j'ai vu le Director Scott. Après, maintenant, ça me manque moins maintenant. Mais parce qu'elle est tellement belle, cette nouvelle fin, entre guillemets, que ça me manque moins. Mais
ça te permet d'avoir une fin un petit peu plus ambiguë aussi, alors que quand tu voyais l'extérieur, c'était comme on te force une fin dans la face. Ouais. Ok, ça se termine comme ça, happy ending entre guillemets.
Ouais.
Puis voilà. Alors que là, c'est comme une porte ouverte à plusieurs interprétations.
Ouais, oui et non.
Bien que
pour moi, ça met un peu. Ce que je trouvais fou, c'est que dans la première version, quand tu fais 1h45 de film, ou je ne sais plus combien, même plus, et que tu finis dehors, c'est hyper traumatisant.
Ah ouais,
en fait. Enfin, ça a un impact émotionnel hyper fort.
Ouais.
Avec la nouvelle version, tu n'as pas la lumière, et en fait, c'est plus ouvert aussi. Est-ce qu'il va se faire tuer aussi? Est-ce que lui aussi, il a un temps limité à vivre avec elle?
Exactement.
Ouais, toutes ces questions.
Ouais.
C'est super fort. Quoi.
Ouais, je pense que ça rentre dans ces séries de fin de film où on s'est toujours dit « Ah, le plan de fin, il était trop, tu sais. Ah, ils auraient dû pas mettre cette scène-là, ils auraient fini à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus puissant. » Tu sais, il y a un peu ce côté-là aussi. Je trouve qu'elle est clairement plus puissante sans le plan final. Bien, malgré ce que tu dis, que oui, ça crée un choc, c'est le fait d'avoir été dans le noir tout le long, puis tout à coup, tu vois la lumière. T'sais.
Ouais, mais je trouve un impact intéressant psychologiquement.
Ouais, c'est vrai.
Je sais pas... Je trouve pas ça affreux, quoi, en fait. Mais je trouve intéressant, pour l'histoire du cinéma, Blade Runner, c'est un bon exemple, parce que il y a les studios qui pensent savoir tout savoir, justement. Il y a le réalisateur qui pense tout savoir, et finalement, chacun sa vérité, au fond.
Exact.
Et puis, ça peut être un très bon film, la version du studio, et même si là, je pense que Ridley Scott est supérieur au studio, mais c'est pas un mauvais film, la version du studio. C'est juste un film moins fort.
Mais non, c'est la version du studio qui est devenue un film culte. Faut pas oublier ça.
C'est ça, c'est juste. Hein? C'est grâce à la version du studio qui est devenue culte
qu'ils
ont pu payer hein, le, un peu le, la deuxième version de 92. Hein.
Exactement. Ouais,
c'est complètement, et puis ouais. la version utile de 2007, qui est la version 92 avec des modifications et des améliorations.
Voilà, c'est parce que Ridley Scott aussi a maintenant un poids tellement ouais. qu'il fait ce qu'il veut là.
Mais en même temps, Ridley Scott, il s'est aussi rendu compte que c'était devenu son film culte. Et puis aussi, ce qui est encore plus drôle, c'est que Harrison Ford, tout le monde lui parle de Blade Runner, il a haï faire ce film.
Oui,
il a détesté faire ce film, il a détesté Ridley Scott, il a détesté ce tournage. D'ailleurs, on voit, il fait la gueule tout le long.
Ouais. C'est pas fait pour son rôle.
Exactement ce que j'allais dire, ça sert le personnage.
Mais comme pendant 30 ans, on lui dit, mais Blade Runner, incroyable, le gars, à la fin, il a quand même accepté de faire les bonus là, pour la version 2007, hein, ouais. parce qu'il s'est dit, merde, c'est quand même un de mes meilleurs films.
Mais avec tout ce qu'il a fait comme autre film, après, tu dis que c'est pas son genre aussi de film. Il a toujours joué comme des...
Je suis pas sûr de ça.
Il a fait une belle carrière après Blade Runner.
Ah, quand même, il a fait quelques films.
Il a
quand
fait
même.
Bah, déjà, Witness, il y a eu les suites
d'Indiana Jones, il y a eu...
Ah, c'est vrai, j'ai oublié Indiana Jones. Ouais, quand même. J'ai oublié Indiana Jones, c'est après Blade Runner.
Dans les années 90 où ça a commencé à...
Ouais, c'est ça, les années 90.
Ça a commencé à partir un peu en sucette, mais avant ça, c'était bien, il était comme...
T'es bien jeune, hein.
Ouais.
Mais
Tous tellement jeunes.
Je pense
jeune.
Qu'il a quand même une belle carrière et puis c'est un film incroyable. Je crois que ce film, il a dépassé toute l'équipe, quoi. C'est un peu un résultat inattendu comme ça.
Est-ce que vous avez lu la nouvelle de...
De Philip K. Dick ?
Ouais.
Moi, je l'ai jamais lu, moi.
Moi, ouais, j'ai essayé.
T'as essayé puis ça a pas.
J'ai beaucoup de peine à Philip K. Dick à lire.
c'est super difficile à lire. Ouais.
C'est pas facile à lire du Philip K. Dick.
Non. Mais alors, je suis d'autant plus impressionné avec le script qu'ils ont fait.
Ouais, c'est pas facile. Ouais.
En plus, il a
inspiré plein de films de science-fiction, des bons films. Minority Report, c'est lui. Ouais, c'est vrai, ouais. Johnny Mnemonic, c'est lui.
Bon, Johnny Mnemonic, c'est discutable comme film.
Ouais. Total Recall, c'est celui.
Ouais, je crois que oui. Non?
Non?
Oui? Non?
Non.
Total Recall.
J'ai un doute là. J'ai un doute. Il faudrait que je fasse une petite recherche.
Il va falloir qu'on fasse une petite recherche.
Ce qui est intéressant avec Total Recall, c'est que vous avez vu le remake. Alors, personne n'aime. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'adore le remake, mais j'aime le remake juste parce qu'on dirait que c'est une suite de Blade Runner.
Ok, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a.
Total Recall, le remake, c'est pas du tout Total Recall.
Visuellement, ça rappelle.
Total Recall, le premier, donc j'ai pas osé voir le deuxième.
Les gens qui ont adoré le premier détestent le remake, ce que je comprends.
Moi, je me suis chicanée.
Mais si tu oublies le titre. Honnêtement, ça pourrait être spin-off ou une suite de Blade Runner.
Ouais, c'est vrai, je pense qu'on en avait déjà parlé. Il y a comme un truc qui te fait penser, qui te remet un peu dans l'ambiance.
Même si actuellement, la vraie suite est en train de se faire, hein, avec un Québécois d'ailleurs.
Oui, bien sûr, exactement, c'est Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve, c'était la boîte
c'est
presque du Blu-ray.
Soit Denis Villeneuve qui fasse cette suite.
Qu'est-ce que tu as dit?
C'est presque rassurant, je trouve ça extraordinaire.
Bah, Denis Villeneuve, c'est un cinéaste solide, qui a une belle écriture visuelle, qui
super.
A un beau style, qui a une tête de cochon. Je pense qu'il est capable de tenir tête au studio aussi, n'est-ce pas? Il commence à avoir une belle expérience américaine après Sicario, Prisoner.
Non, mais quand tu vois Sicario, tu dis...
Je l'ai vu dans l'avion, Sicario.
Si le gars, il aime Blade Runner, l'original, il va nous faire un truc dément, quoi.
Ouais. Ça a l'air qu'il est fan de l'original.
Il y a quand même Ridley Scott à la production.
Mais je pense qu'il y a un respect du matériel original qui fait que ça va être.
Je crois que Harrison Ford fait une apparition. Là.
Mais le frère de Denis Villeneuve a fait le seul film de science-fiction québécois.
Ah ouais.
C'était quoi le seul film?
Mars et Avril. Enfin, le deuxième film de science-fiction québécois.
Ah ouais.
Ouais, tu l'as vu, Mars et Avril?
Non, j'ai pas vu.
Moi, je l'ai vu.
Ma culture de cinéma québécois est encore
très... C'est pas un film parfait, mais c'est un film qui a plein de choses intéressantes, en fait, Mars et Avril. Mais c'est dommage, il y a quelque chose qui marche pas vraiment, mais il faudrait qu'on en reparle, là. Mais c'est dans le scénario, en fait, le problème. Mais visuellement, pour l'argent qu'il y avait, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Mais en tout cas, bref, moi, je me réjouis de voir aussi Denis Villeneuve. J'ai un petit peu peur, parce que c'est le genre de film qui est tellement... comment dire... Tu sais, je veux dire, on l'attend, hein? On l'attend, là. C'est comme Prometheus, par exemple. Quand Prometheus est arrivé, tout le monde attendait Prometheus avec beaucoup d'anticipation. Il s'est fait rentrer dedans, il descend. Puis Prometheus est bien moins pire que ce que les gens en ont dit. C'est pas un grand film, je suis d'accord.
Pour moi, c'est pas un Alien, c'est tout.
Hein?
C'est pas un Alien. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un Alien.
C'est ça, mais tout le monde attendait Prometheus avec tellement de.
Moi, j'arrive pas à le situer, Prometheus.
Et puis tous ces grands films-là, quand arrive une suite.
C'est comme Mad Max. Pour moi, c'est pas Mad Max, quoi, le dernier.
Mais Mad Max, c'est magnifique.
C'est un super film.
Mais c'est magnifique.
Magnifique film.
magnifique, j'adore.
Ah ouais,
ce
tu te rentres pas dans l'univers de Mad Max?
Mais c'est Mad Max 7, je veux bien. Non, Mad Max, le personnage, il est transparent, il ne fait rien, il subit tout le temps.
C'est vrai.
Par contre, c'est un film de femme incroyable.
Ouais. Mais c'est un anti-héros, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a transformé Mad Max en anti-héros. Ben, c'est ça,
non,
c'est
non, dans c'est le ça. Premier, c'est déjà un anti-héros. Hein.
Non, l'anti-héros, c'est la personne qui se fait, qui se laisse faire, qui s'imagine qu'il y a un contrôle et c'est lui qui
ouais,
se...
Ouais, mais elle en prend plein la tronche aussi au début, là. Ouais.
Dans les premier, autres aussi, hein. Dans les autres, pareil, il s'en prend
mais
plein.
Là, mais là, c'est extrême, hein. Là, il fait plus rien. Là, il est transparent, c'est un fantôme. Donc, pour moi, c'est Mad Max 7, mais voilà. Mais j'adore le film.
Hein. Ah, le film est extraordinaire. Ah, ouais. Ouais. On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Enfin, je me suis égaré un peu, hein, mais...
Non,
c'est normal, on fait
ça. On a l'habitude de faire de la digression.
Mais ça serait quoi les... Tu disais que tous les films avaient été hérités de Blade Runner, mais ça serait quoi les films les plus enfants directs de Blade Runner?
Outland?
Outland, ouais.
Outland, je sais pas.
C'était pas, t'as jamais vu Outland, c'est très bon. De Peter Iams, attends, je vais te dire de quelle année ça date, mais continuez seulement.
Et puis, non, mais il y en a plein, en fait. Il y en a, enfin, n'importe quel film.
Le cinquième élément.
Le cinquième élément, c'est carrément du vol, quoi.
Ouais.
Du vol autorisé.
Ouais, mais le cinquième élément, c'est un pastiche.
Aussi.
Ouais.
C'est
non, mais je trouve pas mauvais hein, le cinquième élément. Hein. Je trouve sympa le film de
l'Ouest. Ah non, Outland 81.
Ah
81.
Alors, ce sont, c'est peut-être le contraire.
Faut voir
alors.
Ce film, c'est très bon. Hein.
Ben voilà.
Ouais. Ouais,
On devrait le faire d'ailleurs, Outland. Ce serait une bonne occasion pour toi de découvrir un film.
Oui,
mais peut-être que Blade Runner a mis une dimension un peu plus loin, parce qu'Outland, ce qui est fort, c'est tout dans l'espace quand même.
Ouais. Moi, je pense.
Ça se passe sur une lune de Jupiter, un truc comme ça.
Bon, il y avait plein de trucs dans l'espace qui étaient dans le style, mais sur Terre. Je crois que c'est vraiment le premier aussi dark.
Probable, ouais.
Mais par exemple, Dark City, justement.
Dark City, j'ai pensé Dark
c'est
City.
Pompé, là.
Ghost in the Shell, le truc japonais, je pense qu'il est très, très inspiré de Blade Runner.
J'adore.
Ouais. C'est magnifique.
Ils font un remake, là, live.
Ouais.
Ah ouais?
Live
ouais.
action. Avec, ah. avec... Bah, t'as pas entendu parler de la polémique?
Ça va-tu être américain ou japonais?
Il y a une... mais il y a une grosse polémique parce que c'est Scarlett Johansson qui a le rôle principal de l'inspectrice.
Bien, c'est une bonne actrice. Pourquoi machine. Il y a une polémique avec ça?
Ben, de nouveau, parce que c'est le whitewashing hollywoodien. T'sais, c'est comme, pourquoi est-ce qu'un personnage...
Pourquoi ce serait pas une asiatique?
Voilà, justement, pourquoi ce serait pas une asiatique, tu sais? Alors, il paraît qu'il y a toute une grosse partie du cast qui est asiatique, mais pourquoi elle... Alors, maintenant, il paraît qu'ils vont faire des miracles au niveau des effets spéciaux pour faire que... Moi, j'attends
pour qu'elle devienne japonaise.
Moi, j'attends de voir ça, là. Je suis pas convaincu, mais...
Bon, ben, alors...
Mais sinon quoi? Sinon...
Non, mais... Tous les films, enfin je sais même pas pourquoi on cherche là, il y a tellement de films qui sont pompés sur le visuel.
Mais
le
tout
visuel.
Il y a toute cette ambiance des lumières.
Mais même tous les films
le décor,
de flics là, ça ressemble à ça maintenant.
Ouais, c'est vrai.
C'était qui
toutes les séries
photo,
là toutes les séries.
C'était. Comment il s'appelle Cronenweth? Attends, je vais me retrouver le nom exact parce que j'ai
toutes
pas fait ma
petite fiche. Toutes les séries policières de Network là, c'est tout pompé là. C'est tout la même chose.
Ouais, c'est vrai. Toutes les ambiances.
True Detective, genre.
Ah, mais grave. Gravissime. Bah, regarde ces plans. C'est pas True Detective, ça? Voilà, on décrit les plans où ils arrivent
Breaking
dans le Bradbury Building, là.
Voilà, Jordan Cronenweth.
Il a fait un magnifique travail. Quel autre film il a fait, lui?
Alors, je vais dire ça tout de suite. Peggy Sue Got Married, Altered States, qui était en 80.
Ah, là, tu parles du DP. Hein.
Ouais. Final Analysis, ça, c'était beaucoup plus tard. Kirby Williams.
Il n'y a rien fait de mémorable.
Il a fait pas mal de clips. Ah, c'est lui qui a fait la photo du Rattle and Hum de U2, tu sais, le film, espèce de film documentaire musical.
Bah, tu regardes les propres films de Scott lui-même.
Gardens of Stone, ouais.
Ouais.
Même un Black Hawk Down, c'est.
Il s'est plagié.
C'est Blade Runner dans le désert.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, tout est. Non, c'est vraiment intense, quoi.
Et Birds of Prey, Plain as it is, Touch of Satan. Enfin, en tout cas, c'est pas un amateur. Il a fait un travail de malade.
Oh, c'est bon, c'est excellent, quoi. C'est une coproduction anglaise. Hein.
Anglaise, ouais.
Blade Runner?
Ouais.
Ah.
Ouais.
Je savais pas ça.
Personne voulait le sortir, ce film. Personne voulait le faire. Faut quand même le dire aussi. Hein.
Mais c'est...
D'ailleurs, aussi ce logo de la Alan Ladd Company, on l'a pas vu souvent au cinéma, ce logo-là.
Non.
Mais chaque fois que je le vois, moi je pense Blade Runner. Pour moi, c'est le seul film où il y a l'arbre au début, comme ça.
Magnifique.
C'était quoi l'histoire? C'est justement que personne ne voulait produire ça ou personne ne voulait ci ou ça et que là, cette compagnie-là s'est attachée au projet pour finir. Et puis,
Il ne faut pas se faire, en fait.
Ouais. Imagine le nombre de films qui se font. Est-ce qu'on pense que c'est inévitable que ce film-là doit sortir ou qu'il y a peut-être plein de films comme ça qui se font pas, qui sont cachés dans des tiroirs de studio?
Je sais pas, mais ces films-là, c'est des accidents. Et même à l'époque, j'ai dit au début du podcast qu'on ne pourrait plus faire un film comme ça. Je ne parle pas visuellement, hein.
Ouais.
Je parle de point de vue contenu. Mais je crois qu'à l'époque, finalement, c'est des accidents. Les gens, ils savaient pas trop. Les gens qui décidaient les studios, ils savaient pas trop où ils allaient. Ils ont accepté parce que c'était Ridley Scott et Harrison Ford. Sinon, ils n'auraient jamais accepté de faire ce film.
Ouais, c'est ça.
Ridley Scott qui voulait faire Alien. Right?
Ouais, c'est ça. Ils surfaient sur la vague d'Alien. Ouais.
Ils voulaient plus faire de films science-fiction, d'ailleurs.
En plus. En plus. Là, ça, c'était le compromis. Ah, oui. C'était le compromis, le film noir de science-fiction. Voilà. C'est le compromis.
Donc, ce film, il existe grâce à Alien. Sinon, il ne serait pas là.
Ouais.
Il existe grâce à.
Mais pourquoi tu penses qu'on pourrait plus faire un film comme ça?
Parce que il est, alors il y a plus, dans la forme, il est pas assez rapide, il est pas assez divertissant, tu sais, il y a pas assez d'action.
Mais pourtant tu trouves pas qu'il y a un genre, excuse-moi, je te coupe la parole, mais tu trouves pas qu'il y a un peu un retour à ce genre de mise en scène un petit peu petit, on prend un peu plus de temps
dans les plans studio, tu rigoles. Dans les petits films,
il y en a certains quand même, ouais, dans les films, je trouve. Ouais, dans les petits films, oui, toujours.
Mais tu vas avoir ça dans un, tu sais, le film avec la fille robot qui était un petit peu comme ça.
La fille robot.
Ben oui, la fille. Ah, j'ai oublié le titre.
Non, le dernier film que j'ai vu qui ressemble à ça, enfin ça, dans le rythme, dans l'intelligence, c'est Ex Machina.
Ex Machina. Voilà, c'est, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce que je disais, avec la fille robot.
Voilà. Ok. Voilà. Ex Machina.
Mais c'est un film anglais.
C'est un film indépendant.
Ouais, c'est un film anglais, tu vois, je veux dire.
Il y a pas ce budget là. Ça, tu peux pas faire ça, petit budget.
C'est pas si gros budget, mais ouais, ils sont bien débrouillés pour le budget qu'ils avaient.
Tu veux dire Blade Runner?
Ouais.
Ben, il y avait quand même plus d'argent qu'Ex Machina pour l'époque, là, tout.
Oui,
tout, clairement, tout comparé.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais maintenant, si il y a des gens dans les studios qui vérifient bien le contenu,
ouais,
qui savent lire, si j'ose dire,
ouais,
et qui font surtout gaffe à ce qu'ils veulent pas dire, quoi. Enfin.
Ouais.
Et c'est super subversif. Ça, c'est un des premiers films anarchistes, Blade Runner.
Ça remet en question l'autorité, pouvoir.
Ouais. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on doit laisser nos vies aux corporations? Est-ce qu'on doit détruire la planète? C'est un sacré message. Hein.
Ouais, puis
c'est une caisse de résonance énorme.
En ce moment, tu vis... Okay, prenons un autre film qui s'est inspiré de l'esthétique de Blade Runner, mais dit le message tout à fait contraire d'une certaine façon. C'est The Dark Knight. C'est Batman. C'est toutes les séries de Batman. Parce que là-dedans, c'est, au contraire, c'est le gars qui est à la tête d'une corporation qui sauve les gens. C'est la personne riche qui devient le héros.
Bah, tout le Iron Man, hein.
Iron Man aussi, ouais.
Iron Man aussi, mais c'est
ultra-libéral capitaliste. Hein.
C'est un film d'un point de vue, quand tu regardes The Dark Knight, qui est extrêmement populaire, c'est un film au message politique complètement aberrant. Parce que les riches font pas ça.
Non.
Les riches ne se s'habillent
non,
pas.
Non, mais ils s'y croient.
Des,
ils aimeraient.
Ils ne s'habillent pas en petit
mangeur,
sauveur. Ils font pas...
C'est un fantasme.
Il y avait comme Vendetta qui avait un petit côté subversif.
Ah ouais. Mais de nouveau, le visuel.
Mais le visuel encore.
Vous êtes complètement inspiré aussi. Ouais.
Mais il y a tellement
clair
de films, les Strange Days. Il y a tellement de films qui sont complètement inspirés. Il y a carrément un vidéoclip de George Michael qui est complètement pompé.
Ah, c'est vrai.
Et c'est assumé. Hein.
C'est
Blade
vrai.
Runner.
Putain, je l'avais oublié celui-là.
D'ailleurs, les effets spéciaux faits par notre ami.
Par Douglas Trumbull.
Non, par Dick Ferrand.
Oh, par Dick Ferrand.
Ouais,
ah ouais. Ah, j'ai cru que tu faisais allusion. Ah ouais, je ne savais pas que c'était Dick qui avait ça. Okay.
Et c'est un hommage à Blade Runner, mais c'est complètement assumé, hein, on va dire.
Là, on vient de voir la fameuse scène de la recherche à l'intérieur de la photo. Là.
C'est une des plus belles scènes. Et
c'est
aussi,
hallucinante, cette scène.
C'est aussi très prophétique. Hein. Je veux dire, la technologie, comment on s'en sert. Et puis,
C'est marrant parce que, mis à part les écrans dans ce film, rien n'a vieilli, quoi.
Exact.
Le seul truc qui a vieilli, c'est ça.
Une cabine téléphonique, entre guillemets.
Oui, une cabine téléphonique. Puis les écrans... Oh, tu sais, les écrans
ça,
à tubes.
Ça pourrait être un look hein, dans 20 ans, tu sais.
Ouais. Mais ça me dérange pas plus que ça.
C'est...
Non, mais sérieusement...
Non, mais ça, faut comprendre un petit peu aussi... Faut regarder un film de l'époque en étant conscient de l'époque à laquelle ça a été tourné, mais effectivement, ça marche au bout. Là.
Moi, j'adore l'idée que toutes ces scènes dans la ville qui sont dans le noir alors que c'est supposé être de jour et puis que c'est tellement multiculturel que les gens parlent des langues qu'on ne comprend rien, a été tourné à Burbank dans la banlieue de Los Angeles dans les studios, ils ont tout transformé, c'est hallucinant quand même, ils sont forts, hein,
c'est magnifique.
Ils ont tourné de nuit hein, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais c'est superbe, toute la création artistique, le visuel et les costumes Et le design, mais c'est fou furieux parce qu'on va là-dedans. Hein. Je suis désolé de dire, mais c'est... À l'époque, ça avait choqué, mais maintenant, ça choque pas.
Tu penses que ça avait choqué ?
Bah, à l'époque, non, mais à l'époque.
En tout cas, ça ressemblait à rien.
Ça ressemblait à rien. Enfin, non,
c'était vraiment un truc très. Bah, le fait que ça soit si dark, tu sais, t'es tout le temps de la nuit, enfin, tout le temps dans le noir.
C'est vrai que la science-fiction était plus positive.
Puis tu sais, en 82,
c'était Star Wars.
C'était plus le space opera.
C'est le space opera, c'est Star Wars qui gagne sur les méchants.
Ouais. Mais dans les détails, en 82, les Occidentaux, ils, c'était pas si courant de manger asiatique, tu sais.
Non, c'est vrai.
Maintenant, on mange tous asiatiques, tu vois.
Ouais, ouais.
Et en fait, c'est.
Puis c'est l'idée aussi qu'il allait être envahi par les Asiatiques.
Ouais,
c'est qu'il
c'est
qu'on allait devenir une minorité dans, dans un ensemble de. Ce qui est un peu plus vrai maintenant. On l'accepte un peu plus. On est en train de se ramener.
Ça, c'est, ça, c'est des petits détails.
Le statut de minorité.
Ouais, c'est des petits détails qui sont bien utilisés dans Firefly et Serenity aussi, tu sais.
Ah oui.
Ou dans le. Ou dans le langage de tous les jours, tu as des mots chinois, tu sais, qui sont rentrés.
Ouais, mais de nouveau, une série, un film pompé.
Ah ouais, ouais, c'est complètement inspiré. Mais... faut qu'on fasse ça une fois, Firefly et Serenity.
Il mélange avec le western beaucoup.
Oui,
Firefly,
ouais,
c'est la rencontre de la science-fiction.
C'est clair. Intéressant, c'est intéressant.
Ouais.
Mais moi, je reviens à l'histoire. Là. Il y a, dans le plot, là, il y a tout le, on vient de voir là, l'identification de l'écaille synthétique d'un animal.
Ouais.
Mais faut pas là, on voit le serpent. Il ne faut pas sous-estimer ça, c'est énorme ce qui c'est
ouais.
Il y a 80% du poisson qui est pêché actuellement qui n'existe plus, il y a
on est en train de t'as des espèces qui disparaissent,
voilà, des espèces qui disparaissent, puis là on va dans Blade Runner.
Ouais, c'est vrai que bientôt il y aura des animaux synthétiques.
Mais
pour,
on va là-dedans et je ne sais pas à quel point on est conscient.
Bah, bientôt est quand même une autre chose parce qu'ils essayent très très fort des femmes, mais il y a des gros problèmes avec la l'intelligence artificielle,
ouais.
ils ont frappé des... Tu sais, un petit peu comme la recherche sur le cancer qui pensait trouver ça avec Nixon. En 5 ans, on allait battre le cancer, puis bon, on meurt encore du cancer. L'intelligence artificielle, pour des choses très complexes, pour des choses que nous, on n'est pas capable de faire, les robots sont très adaptés. Mais au niveau de faire des choses très simples, c'est comme plier du linge, par exemple, les robots sont...
Ça se développe vite, hein, quand même.
Non,
hein.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas une question que ça se développe ou pas, c'est qu'ils s'arrivent pas... Il y a des choses que notre cerveau fait qu'ils ne comprennent pas comment il le fait. Mmh. Puis que nos neurones, des trucs super petits, la façon dont on apprend, etc., ils sont limités. Ils ont quand même fondé une association il n'y a pas longtemps, là, très prestigieuse, bourrée de gens extrêmement intelligents, pour surveiller l'émergence de l'intelligence artificielle comme menace à l'être humain.
Ouais, ouais.
Donc, il y a une association qui existe préemptivement par rapport à ça. Mais pour l'instant, on n'a aucun robot qui est capable d'avoir une pensée... savante, le sapiens. C'est encore des machines, pour tout ainsi dire. Même s'ils sont très sophistiqués, c'est encore des machines. Ils n'ont pas encore une pensée savante. Là, comme
il semblerait qu'il y a des gens qui bossent sur un espèce de moteur de recherche, sur le net, qui apprend par lui-même.
Oui, mais ça, il y en a beaucoup.
Non, mais qui apprend vraiment par lui-même, pas juste qui apprend
beaucoup,
par équation.
J'étudiais à l'université en informatique, okay, puis c'est ça qu'on faisait. On faisait ce qu'on appelle le neural network. On en faisait là, des programmes informatiques qui apprenaient par eux-mêmes. Mais il y a une chose entre faire ça, puis faire un programme qui est capable d'avoir une intelligence, de l'imagination, de la créativité.
Ça, c'est encore autre chose.
D'être capable de faire...
Ça va très loin.
D'être capable de prendre des concepts et de les amener à un autre niveau. Je veux dire, notre machine humaine, elle est fascinante encore pour les scientifiques et les chercheurs. J'en ai pas rendu là. Ça peut pas dire qu'on... Peut-être que c'est juste un petit truc. C'est ça qui se passe avec la science. C'est qu'il suffit d'un quelqu'un dans un laboratoire qui fait « Hum, c'est bizarre ça, qu'est-ce que ça veut dire? » Puis poum, ils viennent de découvrir quelque chose de whatever. Puis il y a aussi toute la notion de développer des espèces mélangées, les OGM, ces machins-là. Ça, c'est une autre... Là-dedans, tu vois qu'ils vont peut-être bâtir des parce que là, je rentre dans quelque chose un peu style l'île du docteur Moreau, là, où il transforme les animaux en humains. Mais il y a d'autres façons d'appréhender l'intelligence synthétique, dans le sens que ça peut être un mélange entre... Tu sais, il pourrait prendre une machine puis greffer des parties humaines, tu sais, ou mélanger. Puis c'est un peu ça, tu sais, quand on fait des... tu sais, quand on essaie
prothèses,
de faire des
là.
Bras, des prothèses et tout, tu sais, ça peut aller aussi jusque dans le cerveau, parce qu'on peut faire des extensions au cerveau pour aider les gens.
Mais là, c'est un stade plus loin dans le film. Dans le film, ils ont réussi à le faire entier.
Non, c'est ça, exactement.
Ouais.
Mais c'est peut-être par ça que ça va finalement...
Mais ce qui est intelligent, quand ils tuent les réplicants, parce qu'on ne tue pas un réplicant, on les retire.
Bien sûr.
Tu sais, s'il y a du sang, là, c'est bizarre. Et puis tu te dis, mais merde, ils sont faits comment dedans? c'est assez intéressant, tous ces détails, justement, qui, au mélange de technologie, là, tu sais pas trop. Mais ce qui est important dans le film, c'est que quel que soit le chemin que tu décris, là, tu sais, peut-être par les prothèses, mais à la fin, on arrive à ça, en fait. Ça, c'est plus après, je trouve.
Mm-hmm. Tu vois, l'aboutissement
quel que soit
de
le
ça.
Chemin, en fait.
Ouais. Oui. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est juste que c'est pas demain, mais oui, un jour, l'être humain fantasme trop là-dessus pour pas le créer.
Ah, c'est pas demain, quand tu vois l'Internet et la mobilité, parce que pour moi, Blade Runner, le seul échec technologique qui manque, c'est le mobile. Enfin,
la communication partout.
Ouais. Mais ouais. Le mobile, il y a même les photos, tu sais, à la Harry Potter, là où ça bouge un peu, là.
Ouais.
Dans Blade Runner, ça bouge déjà, les photos.
Ouais, c'est vrai.
Et maintenant, quand tu es sur ton iPhone, là, tu peux faire des photos qui bougent.
Ouais.
Ça
c'était avant-gardiste, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas aucune mention d'internet et tout comme ça, de réseau global.
Mais par contre,
c'est pas quelque chose qui manque à l'histoire, ça ne va pas dans
pas
une
vidéo. Exactement,
en plus ouais, ça manque pas du tout.
Et c'est exactement ce que je voulais dire, ce que tu dis, c'est que en fin de compte, même si on n'est pas exactement dans une réalité là, tout le message il est valide.
Ouais.
Toute l'histoire amène, il y a rien qui a vieilli, rien. Pire, c'est devenu encore plus actuel. D'être obligé de voir ce film. Non, c'est un film incroyable, je m'en lasse pas de le voir. Hein.
Non, moi non plus, rien que de le voir passer là, je suis là, ah, je le reverrai bien là, comme ça. Là.
Mais moi, je vais revoir la version studio, elle me manque un peu.
Ouais. Moi, je veux voir la version de 2007, parce que j'ai l'impression que je l'ai peut-être vue ou pas, mais je suis curieuse.
La version
de
2007, t'as plein de détails,
mais je
effets spéciaux
les deux back-à-back,
aboutis,
là.
Tu vois,
ouais.
Genre les colombes à la fin, ou t'as plein de scènes qui ont été refaites comme il faut, comme ils auraient dû faire au début.
Ah oui, il y a ce fameux plan. C'était aussi un des rares plans avec du ciel bleu, le plan de la colombe.
Ouais, c'est ça va. Dans les studios.
Ouais, ouais, c'était ça dans le coin du bac en vitesse.
Mais dans le studio où ils montaient, je crois, en Angleterre,
ouais.
C'était même pas dans le studio de tournage.
C'était même pas à tourner,
ouais. Et donc, ouais, il y a plein de petites scènes là, bien finies. C'est vraiment chouette, quoi. C'est super.
Puis bon... par-dessus tout ça, il y a la musique aussi.
Mais ouais.
Qui est devenue cultissime, même si quelque part elle avait un peu vieilli.
Elle est plus de son époque, la musique.
Ouais, elle est plus de son époque, ouais.
C'est Vangelis, ça. C'est toute une époque, Vangelis.
Ouais, mais
quand elle est intégrée au film, je trouve que ça marche super bien.
Ah ouais.
Quand tu l'écoutes toute seule, c'est un peu particulier. Mais,
ah non, moi je peux l'écouter en boucle.
Ah ouais, non, mais moi aussi.
Avec l'édition du 25e anniversaire où ils ont fait un quadruple album avec deux disques de spin-off.
Des morceaux inspirés, ouais.
Ah, c'est juste génial, quoi. C'était fantastique.
Je me rappelle un coup où j'étais en vacances avec toi à Barcelone, puis tu m'as emmené sur une colline qui surplombe la ville.
Ouais.
Puis tu m'as dit, ok, là on va s'écouter. C'était le soir, je pense.
Ouais.
On avait la vue sur la ville illuminée et tout ça, puis tu me dis, regarde là, on va s'écouter Blade Runner.
Bah ouais, ça correspondait.
Puis
hein.
on s'est passé la musique à ce moment, c'était un super moment là, je me rappelle de ça. On s'est écouté la musique de Blade Runner en regardant, tu sais, sur cette colline, on avait la vue sur Barcelone toute illuminée là, c'était assez magnifique.
Jusqu'à la fin des 90, on écoutait la mauvaise version en fait.
C'était pas celle de
Vangelis. Pas le bon enregistrement. C'était,
c'était une réorchestration par je sais plus quel orchestre. Ouais, ouais, c'est
American
ça.
Symphony Orchestra. C'était pas bon, quoi.
Non, c'était une réorchestration.
Ah,
c'était pas du tout.
Dans la version 92, ils ont mis la musique.
Dans le film, t'as toujours eu la bonne musique, mais la version qui existait en
CD, excuse-moi, j'ai manqué un bout.
Même en CD, pendant
en vinyle ou en cassette.
Voilà, pendant pas mal d'années, c'était pas celle de Vangelis, c'était une réorchestration. C'était un orchestre symphonique.
Pendant 25 ans.
Voilà, c'était un orchestre symphonique qui jouait la musique de Vangelis. C'était pas le son de Vangelis. Non.
D'ailleurs, la chanson
On dit
One
Vangelis
More Kiss,
ou Vangelis,
c'est même pas la même. Elle chantait par un homme, je crois.
Un truc comme ça, ouais.
Et puis après, elle chantait par une femme ou vice-versa, je m'en rappelle plus trop. Et on a dû attendre 25 ans pour avoir le bon soundtrack.
Ouais, et un jour, ils ont sorti la version de Vangelis. C'était la folie,
c'est
là.
Incroyable. Incroyable.
Puis après, c'était pour la sortie. Je pense que c'était en même temps que la sortie du Blu-ray avec la version finale et tout
2007.
Ça. Que là, ils ont sorti la compile, genre les 4 CD
ouais,
compile.
C'était aux 25 ans, donc ça devait être 2009. Hein.
Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Et là, c'était... Ouais, là,
non, 2007. 2007, c'était en même temps.
Donc,
ouais.
C'était en même temps, ouais. Ouais. C'était CD compile avec la musique d'Evangelis plus la musique inspirée par... Et c'est intéressant comme album, c'est vrai, hein, parce que souvent t'es là, souvent tu te dis, ouais, bon, les trucs inspirés, c'est un peu...
Non,
mais
là
c'est franchement bien, ouais. C'est franchement bien.
C'est vraiment incroyable. On retrouve toute l'atmosphère de la ville, tout cet univers musical, c'est puissant, quoi.
Ouais.
Et moi, je trouve pas que ça vieillit. En fait, c'est de son époque, oui, ça correspond au film. Je trouve que la musique d'Evangelis, elle est hors temps, elle est hors tout, hors mode. hors tout. Et en fait, quand je l'écoute maintenant, elle fonctionnerait sur un tas de choses, en fait.
Tu parles de cette musique-là, de ce film-là en particulier, ou de Angelus en général?
Non, cette musique en particulier.
Cette musique en particulier. Ouais. Sûrement. C'est un peu comme...
Mais il y a d'autres albums d'Evangelis comme City... comment ça s'appelle déjà? Ouais, City, je crois.
Ça m'échappe maintenant.
Il y a d'autres albums qui sont du même, de la même couleur.
Ouais. Là, on est en train de voir la fameuse scène de poursuite de Zora. C'est Zora, hein, le nom du personnage.
Je pense qu'il n'y avait pas d'effet numérique. Puis la cascadeuse, là...
Elle est rentrée dans
toutes les glaces, toutes nues. Il faut être dingue pour écrire un truc pareil.
Non, c'est hallucinant.
Encore plus dingue pour...
Non, mais là, ça devait être... Ça devait être du candy glass, là, ça a dû coûter cher.
Non, mais ils disent que c'était assez vraiment dangereux. Hein,
ah ouais?
C'est coupé aussi.
Donc c'était pas du candy glass.
Et là aussi, ils ont retouché numériquement.
Le sang, à l'origine, tu voyais.
Oui, c'est vrai. Pourquoi du sang?
Ben oui, mais c'est intéressant ça.
Ben oui, mais s'ils sont construits de bout humain, comme il y avait des yeux au début dans le laboratoire.
En fait,
c'est ça que je te dis, c'est comme. C'est le C'est l'idée de prendre des... C'est Frankenstein un petit peu, quoi.
Non, mais qu'est-ce qui est biomécanique,
pour moi, c'est
tu vois? Qu'est-ce qui est... Fin...
Ben, là-dedans, les réplicants, ils l'expliquent pas tellement. Pour moi, ils ont peut-être un petit côté Frankenstein, comme je te dis. Ils créent des organes synthétiques, mais ils en prennent des bouts...
Mais là, ils ont tout recréé en entier. Ils le disent. Enfin, c'est des modèles entiers.
Ouais, ok, mais il synthétise. Tu vois un œil au début, donc il synthétise.
Le sang, les os.
Oui, mais c'est ça. Mais est-ce qu'ils utilisent, tu sais, je veux dire, est-ce qu'ils utilisent vraiment des trucs artificiels qui imitent le sang, ou c'est pas du vrai sang qui est utilisé, tu sais?
Ouais.
Mais ils n'expliquent pas. Mais c'est un film. Dans un film, ils n'expliquent pas ces détails-là. Tu laisses ta
justement, au fond, c'est pas important, en fait.
Mais c'est ça, c'est pas important ça. Puis c'est ça qui fait un grand film. Ça, on le dit souvent, les problèmes avec certains films de science-fiction qu'on n'a pas aimés. C'est qu'ils expliquent trop, ils essaient trop de verbaliser, ils s'expliquent trop.
Mais ça, c'est parce qu'on fait du mainstream pour le gars qui a 12 ans, qui mange ses pop-corns, il faut qu'il comprenne. Et moi, je suis pas d'accord avec cette philosophie, quoi.
Ouais.
Je veux dire, c'est ça qui est nul. Enfin, c'est ce qui fait que tous les films actuels se ressemblent énormément et qu'ils sont beaucoup moins intéressants, en fait.
C'est vrai. Ouais.
C'est qu'il n'y a plus de part de mystère et on laisse plus le public faire.
Faire une partie du chemin.
Voilà,
ouais.
Exactement.
C'est vrai ce que tu dis.
D'amener son imagination. Ouais. Dans Blade Runner. Tu comprends. Moi, à chaque fois que je le revois, je vois un truc différent, quoi.
Ouais.
Et c'est d'une richesse de dingue.
Moi, ça me fait ça avec 2001 aussi, quand on en a parlé, tu sais.
Pareil,
2001, pendant les années, j'ai rien compris. Puis en fait, maintenant, je découvre, tu sais, à chaque fois, je vois un truc nouveau, différent, tu sais. Puis on comprend pas la fin,
mais c'est pas grave.
Non, mais ça, pareil, c'est ouvert à interprétation, tu sais, à multiples interprétations.
Alors, ce qui est intéressant, là, on vient de voir le logo avant, le Budweiser, là.
Ouais.
C'est qu'il y avait la malédiction Blade Runner, là. Toutes les marques qui étaient devaient supposer se disparaître, en fait. Et Coca-Cola et Budweiser sont toujours là, mais Panam a disparu.
C'est vrai, ouais.
Atari a disparu. Pourquoi ils ont disparu?
Parce qu'ils voulaient pas être dedans, c'est ça?
Non, disparu de la vie.
De la vie, ouais, ok, c'est ça que tu veux dire. Ok, je pensais que c'était une placement de produit.
Ouais, alors après, c'est comme une espèce de légende urbaine que c'est à cause du film que ça les a coulés ou un truc comme ça.
Mais Coca-Cola et Budweiser sont toujours là.
Voilà. La majorité des... Il y a beaucoup de marques qui disparaissent régulièrement, rare là.
Ceci dit, Atari, c'est rare que de marques survivent. Atari est de nouveau là.
Ouais. Bon, c'est devenu un truc fashion, Atari. Hein.
C'est un premier. Tu parlais du cyberpunk. Mais je trouve que c'est presque un film préhistorique de steampunk. Parce que regarde, tout est basé sur leur costume, c'est des années 40, c'est un mélange.
Ah oui, ben oui, non, mais je suis d'accord avec toi, il y a un petit côté steampunk à ce film-là, puisque justement, ils vont chercher le mélange film noir, regarde la voiture.
Ouais, mais ça,
c'est ça, les années
40-50.
40-50, c'est Chinatown de Jack Nicholson.
Mais ça n'existait pas avant ce film-là.
40-60, mais c'est 60 aussi.
Chinatown, film noir.
Mais ils sont partis du principe que la mode se recycle, c'est un cycle, et puis que ça revient, Et je trouve assez juste, en fait.
Ben, c'est Gattaca est inspiré d'une esthétique style... Eux autres s'inspiraient presque de Metropolis, je crois. Puis de la fin de la guerre, les années 40.
C'est plus années 40, ouais.
Années 40, mais il y avait aussi le côté art déco.
Art déco, ouais.
Ouais,
art déco. Non, pas art déco... Art déco, excuse-moi.
Mais pour la mode des filles, c'est les années 40. Donc, pour le look, c'est art déco. Puis là-dedans aussi, c'est ça, c'est la même chose. On va chercher l'esthétique du film noir. Là. Écoute, il porte un trench coat ou quelque chose du genre. J'ai l'impression qu'il
ressemble beaucoup. Ouais, ça y ressemble beaucoup.
Et tu vois, à l'heure actuelle, si on faisait Blade Runner, les studios diraient, mais il faut que les réplicants se ressemblent tous. Et c'est ça l'intelligence de l'époque. C'est qu'ils ont un casting incroyable. Ils ne sont pas pareils.
Ouais.
Tu vois? Et ils ont, voilà, c'est les modèles différents, c'est intéressant. Puis il y a une espèce d'humanité dans chaque réplicant. Et puis plus tu réfléchis, quand tu vois la scène à bagarre entre Descartes et un des réplicants, tu te dis, mais en fait, c'est deux réplicants qui se battent. Mm-hmm. Quand tu as compris, tu vois.
Ah ouais.
Un autre truc qui est difficile dans ce film-là pour le spectateur, c'est que les méchants, les replicants, ouais, leur motivation, on la comprend. Ils veulent juste survivre.
La motivation, c'est la plus humaine de tout le film.
Exactement. Leur motivation n'a rien à voir avec
terrible. C'est un film terrible, mais il n'y a pas de méchant. Ouais.
Exactement. Donc, pour un spectateur de l'époque, ouais, c'est très difficile.
Et là, en plus, c'est une réplicante qui tue un autre réplicant qui se fait taper par un autre réplicant.
Ouais.
Ça fait beaucoup de réplicants.
Voilà, il y a ce plan magnifique.
Ah
tu
ouais,
vois,
avec le petit sang qui tombe.
La goutte de sang dans le verre d'eau. Là.
Mais
ah,
ça, c'est
magnifique.
Blade Runner, c'est... Ouais.
C'est tous des petits détails comme ça, qui font que c'est un monde tellement riche, quoi. C'est en fait. C'est une accumulation de plein de détails qui font que tu crois
RCA
complètement.
RCA derrière, le logo RCA.
Ah oui, RCA, c'est juste.
La direction artistique, là-dedans, elle est...
Ah, exceptionnelle, ouais, c'est exceptionnel.
C'est... Tous ces néons aussi, là, il a fallu qu'ils effacent, là.
Ouais.
C'était à l'époque, justement, tu les faisais pas par ordinateur. C'était je te mets, mets un truc vert, puis je te dessine tout, là.
Ah, tout est
non,
bah
là,
tout est réel.
À l'époque, il n'y a pas de truc vert. Enfin, ils faisaient
peu. C'est ça que je te dis, c'est pré-ça, c'est avant ça.
Il y avait du truc vert, mais c'était pas... Ouais, c'était peu, quoi.
Des écrans verts dans Blade Runner?
Oui, mais c'est-à-dire que c'était optique.
Ouais.
C'était pour toutes les scènes de vol, machin, c'était...
Oui,
mais pas avec les personnages,
Il n'y avait pas d'effet numérique, c'est ça que je veux dire.
Ah non,
il
n'y
avait pas d'effet numérique. Non, c'était beaucoup trop tôt, là.
Non. C'est bien presque 10 ans avant, un peu moins, tellement de clips qui ont... Les clips qui se font encore maintenant, ils sont encore inspirés par ce film.
Ouais, c'est clair. L'esthétique, ça a créé un précédent.
C'est un truc de dingue. Et puis, ils avaient un rapport à nudité assez cool, quoi. Maintenant, tu ne peux plus faire ça non plus.
Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est-à-dire qu'il y a une réplicante, tu les vois à la poitrine full frontale.
Full frontale, ouais, ça c'était l'époque aussi. Plus, ça c'était l'époque, les années 80, c'était beaucoup plus light à ce niveau-là.
Aucun film de studio, tu peux faire ça. C'est interdit depuis au moins plus de 15 ans, 20 ans même.
Dire dans les films d'enfance, ça jurait et tout, ça sacrait dans tous les sens, mais t'avais de la nudité, c'était beaucoup
même temps,
moins strict. Voilà.
Dans ce film-là, cette scène-là, c'est parce qu'elle fonctionne bien. Elle va avec le personnage, elle va avec l'histoire, avec la scène.
C'est justifié.
Il n'y a rien de choquant dans cette scène-là.
Mais ça passerait pas, là.
Je sais pas. Moi, je ne sous-estimerais pas.
Non, studio, ça passe pas.
Moi, je pense que ça passe.
Parce qu'ils veulent descendre à 14 ans, c'est pour ça. Sinon, si tu ne veux pas du 16 ans.
Ouais.
Et là, une poitrine, c'est 16 ans. Merci, au revoir. Hein.
Ouais.
Je sais pas.
Ah, mais j'en suis sûr. Donne-moi un film, c'est 15 années.
Oui, mais bon, un film comme ça, c'est pas un film pour le public de 14 ans, de toute façon.
Non, de toute façon, ouais.
Quand ils font Sin City, t'envoies des scènes dans
Sin City.
Mais
tu vois, ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de dire.
Non?
Tu dis, ce film-là, il n'est pas pour 14 ans.
Ouais.
Mais à cause du contenu intellectuel,
bien
pas
sûr,
à cause... Voilà.
Bien sûr.
Donc, quand il y a de la violence à outrage et aucun contenu, ah oui, ça, c'est pour 14 ans.
Ah oui, mais ça c'est le grand paradoxe.
Mon envie,
ça c'est le grand paradoxe.
On fait un film d'action, il y a plein de morts gratuitement, mais un film intelligent qui a du propos, c'est pas 14 ans.
Ah ouais, ça c'est les aberrations de l'humour.
Moi je dis aberration, je veux dire, il y a une aberration. Ok, là que je suis d'accord avec vous, c'est qu'un film extrêmement violent soit toléré pour des adolescents versus un film extrêmement sulfureux et sexy ne soit pas toléré. Ça, je trouve qu'à partir de 14 ans, vu toute la curiosité sexuelle que les adolescents vivent, un film sulfureux pourrait très bien passer. Ceci dit, au niveau d'un contenu plus mature, je pense qu'à 14 ans, t'es pas prêt à recevoir un truc de philosophique comme ça. Là, ça demande une éducation, ça demande maturité.
Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que... Alors non, là où je suis d'accord avec toi, c'est que oui, ça demande de maturité et ça demande une éducation. Mais là où je suis pas d'accord, c'est de pas y avoir accès. Pour avoir cette maturité et pour avoir à réfléchir, à 14 ans, il faut avoir accès à ce genre de film.
C'est un bon point.
Pour évoluer, pour apprendre, et pas s'abrutir avec des films d'action purs.
À 14 ans, il faut lire 1984, il faut aller à l'école, il faut apprendre.
Mais quand tu lis 1984 et que tu vois Blade Runner, c'est le même acte pour moi.
Ouais.
Ah, voilà.
Mais c'est ça que tu es en train de me
dire. Ouais, c'est le même acte.
Écoute, j'aimerais dire que je suis d'accord avec toi, mais ayant vu le film à peu près à 14 ans, ayant fait « Non, je comprends pas », parce qu'il y a quelque chose
c'était
aussi...
C'était une autre époque aussi.
Ben oui, je sais pas. C'était l'époque, c'était quand même l'époque des années 60 avec une certaine lenteur dans les films. Là. T'avais Apocalypse Now, t'avais... Je pense qu'aujourd'hui, les films sont beaucoup...
70, tu veux dire.
Oui,
70-80.
Ouais. Aujourd'hui, je pense que les films sont beaucoup plus vidéoclips. Tu peux plus t'ennuyer. Ouais. Tu peux plus avoir vraiment... Quand t'écoutes une série comme Sherlock, que j'adore, c'est bon, Sherlock, il y a pas une microseconde qui se passe rien là-dedans. Là.
C'est vrai que t'es constamment bombardé d'informations.
Tu vois, j'ai fait un test avec Blade Runner. J'ai montré le film à 4-5 personnes de moins de 30 ans.
OK.
Ils adorent tous le film, mais ils toussent tous trop lent.
Ben oui.
Oui, mais ils adorent le film. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils hallucinent, qu'ils arrivent à regarder un film sans s'ennuyer, alors qu'il est super lent.
Ouais.
Et qu'ils réfléchissent après. Mais pourquoi ils ont cette surprise? C'est parce qu'ils sont abrutis par le reste. Parce qu'on leur propose plus ça. Et pourquoi on leur propose plus ça? Parce qu'on a trop peur de ne pas faire d'argent avec ce genre de film.
Oui, mais parce qu'aujourd'hui, les gens, ils zappent.
Mais à l'époque, je te rappelle que c'était aussi un échec.
Non, non, mais à l'époque... Oui.
C'est ça que je suis en train de dire. C'est que le système, il est fait pour que ces films-là ils n'existent pas.
Ouais.
Quand vois un film... Moi, je trouve
c'est
le film...
C'est un accident que ce
le film le plus proche de Blade Runner depuis 20 ans, c'est Fight Club. Pourquoi?
Oui, mais c'est la même chose, c'est un accident. Hein.
Ouais.
David Fincher a raccroché le téléphone en disant « Je viens d'avoir 120 millions de dollars pour faire un film indépendant. »
Anarchiste.
un film anarchiste, subversif. Je pense que tu disais le mot subversif.
Tu veux me dire que tu n'es pas d'accord, puis tu me donnes le pourquoi que tu es d'accord.
Non, mais je d'accord, pas d'accord. Je veux dire, c'est comme... Je vois tout à fait ton point de vue, mais après ça, c'est sûr que...
Quand tu vois Fight Club, tu réfléchis après.
Alors, ouais, Fight Club, c'est
plus rapide,
c'est plus
mais
rapide.
Pas toujours.
C'est plus rapide. Il n'y a pas de lenteur comme dans Blade Runner.
Non, mais c'est une question d'époque. Mais je pense que Blade Runner, il aurait été plus rapide s'il avait été fait maintenant.
Ouais,
ça aurait été aussi un accident, tu vois. Le propos, je parle. Pas le fait que ça aille plus rapide.
Ouais.
Et Fight Club, pour moi, c'est la continuité. C'est-à-dire mettre l'intelligence du visuel et du scénario et du réalisateur et des acteurs au service d'une profondeur qui n'y a plus. Et le gars, Bill Mechanics, qui a autorisé Fight Club, il s'est fait virer de la Fox. Hein. Donc, ça coûte cher hein, de faire des films accidentés.
Oui, mais après ça, tu sembles que pour le reste de ta vie, dire je suis celui qui a greenlighté.
Ouais,
bon,
le chômage quand même.
Ouais.
Hein.
Ah non, il doit travailler ailleurs.
Non, mais tu vois, je veux dire.
Fight Club a été bien reçu quand même. Non, il y a cette
non, mais Fight Club a été bien reçu par les gens qui ont vu le film.
Ouais.
Mais c'est exactement la même histoire. En salle, il n'a pas marché, il a marché en vidéo.
Ah non, il n'y a pas marché en salle.
Ah non,
plus ça a pas marché en salle. J'avais l'impression que ça avait plus marché en salle.
C'est-à-dire qu'il a coûté cher le film. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Et ils n'ont pas fait cher, recoupement avec juste la salle. Donc voilà quoi.
Voilà.
C'est pour ça que je pense.
Écoute, on pourrait continuer d'en parler longtemps
de tous
ces films.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est un film sur lequel tu as envie.
Qui sont subversifs.
C'est un film sur lequel tu as envie de prendre le temps. Ça vaudrait le coup de faire carrément une piste commentaire, tu sais.
Ouais, on pourrait le faire un jour. Je pense que Blade Runner, c'est le genre de film qu'on peut parler deux fois.
Pour moi, ce film-là, c'est le film le plus important actuellement. Alors qu'il a été fait il y a...
Ça, c'est super intéressant, comme point de vue.
Il y a 34
ans. Je trouve ça super intéressant parce que je ne l'avais jamais vu sous ce jour-là. Mais c'est vrai que quand tu commences à...
Non, mais il n'a pas vieilli d'une ride.
Non, ça, c'est sûr.
Mais
sur
le fond aussi.
C'est ça, le fond aussi, absolument.
Sur le fond, il a même mûri. C'est-à-dire qu'il a pris, comme le bon vin, il a pris en qualité, quoi. Il est juste incroyable. Numéro 1 dans le top 100.
Oui, effectivement, c'est vraiment partie des films qu'on peut revoir et revoir et revoir.
Ouais.
Ceux qui ne connaissent pas bien le cinéma de science-fiction et ceux qui ont moins de 30 ans, il faut qu'ils le voient le plus vite.
Ouais. Absolument, c'est un beau mot de la fin, je pense.
Voilà.
Comme on disait, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais on va s'arrêter là. Parce que je sais que toi, tu es très occupé.
Oui, il faut que je cours.
Ouais, absolument. Fait que voilà, c'est ça. Bah écoute, Xavier, c'était un plaisir de discuter de Blade Runner avec toi.
Mais c'était un grand plaisir.
Oui, merci de nous avoir accueillis dans ton salon pour faire le podcast.
Ouais, en plus, c'est cool. Hein? Chez toi, il fait très, très chaud là-dehors.
Il fait très chaud.
Oui, il fait très chaud.
Parce qu'à l'extérieur, il fait extrêmement chaud en ce moment à Genève. Ouais. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, on est à Genève parce que Marie-Louise est la marraine d'un de mes enfants et elle est venue ici avec nous pour célébrer le baptême du petit,
oui.
de notre petit dernier. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'occasion de faire un podcast ici. Et tout.
C'était, à Genève.
C'est, ça a changé, c'était cool.
Ça s'internationalise.
Ouais, ça s'internationalise. On va essayer d'avoir plus de d'auditoires suisses. fait que Xavier, est-ce qu'il y a moyen de voir tes films en ligne quelque part ou est-ce qu'ils sont disponibles genre, je sais pas, en VOD ou,
Pour l'instant, c'est
compliqué. Non, mais je sais pas, sur iTunes, je sais pas, je dis n'importe
Alors,
quoi.
Alors, pour être très franc, il y a Verso qui est un film policier très noir, hein, et de beaucoup
noir
de références
aussi.
À Blade Runner.
Ouais, ouais, probablement. Ouais.
Et qui,
je peux témoigner, là, j'ai travaillé dessus aussi.
Vous le trouvez sur un torrent, donc je veux pas mettre mes distributeurs à dos, mais vous le trouvez sur des torrents en français.
Il est pas disponible genre sur iTunes ou sur.
Non, pas en Amérique du Nord.
Pas en Amérique du Nord.
Okay. Et puis le premier neutre, ben alors là, c'est encore plus compliqué puisqu'il est disponible nulle part.
Ah, quel dommage.
Mais un jour, il le sera, voilà.
Tu sais, ouais. Des fois, ces choses-là se retrouvent par hasard sur YouTube, à défaut d'être distribuées nulle part. Hein.
Ouais.
Il y a quelqu'un comme ça qui le met sur YouTube, puis
ouais. Pouf. Ouais, ben ça ne serait pas une mauvaise idée, vrai du songe. Et puis, il y a déjà, Sweet Girls, par contre, Sweet Girls, il sera...
Sweet Girls, ouais.
Ouais, il sera... On ne désespère pas même de sortir...
De venir au Québec, ça serait cool.
Ouais,
c'est un film francophone, donc
malgré le titre.
Ouais, malgré le titre,
c'est un film.
Ils vont changer le titre au Québec.
Les gentilles,
ils vont te le franciser.
Ouais, ils vont mettre les gentilles filles.
Les gentilles filles, ouais, un truc comme ça.
Ou les douces filles, j'ai pas trop
compris. Et puis, si du monde veut te suivre en ligne ou comme ça, il y a quelque part où on peut te joindre.
Ouais, alors sur le Facebook, là, il y a Ruiz Cardino Entertainment.
C'est votre page Facebook, ouais.
Et là-dessus, vous avez trouvé les nouvelles sur nos films, sur Sweet Girls, mais sur nos BD aussi.
Ouais, ça, c'est cool.
La BD, je pense qu'elle va sortir...
ID versus Zombie.
Elle va sortir en Amérique du Nord, là.
Ça, c'est cool.
On pense.
On se réjouit de voir ça.
C'est un peu long à faire, hein, mais voilà.
Ce projet Kickstarter, c'est cool.
Ouais.
En plus.
Ouais, qu'on a réussi à finir le financement. Là.
Ouais, Sweet Girls aussi, c'était Kickstarter. Hein.
Ouais, c'était, mais alors là, c'était pas...
ça a été plus difficile.
Ouais, c'était plus difficile, mais on a réussi à...
Mais le film, c'est fait quand même.
Ouais.
Ouais, c'est ça qui est cool.
On a fait une dizaine de festivals et puis. On sort en DVD en Suisse et en Blu-ray en octobre.
Cool. Bon, Marie-Louise, toi, t'es toujours sur... c'est toujours Marie-Lou Gariepi sur Twitter.
Yeah.
Et puis marie-louise.gariepi sur Facebook. Moi, c'est Steady Nick sur Twitter. Nicolas Petzila sur Facebook. Et puis, pour vous abonner au podcast, c'est sur 24quarks.com, toujours avec un S. Ou sur iTunes. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, un rating, tout ça. C'est bien, ça nous fait monter dans les listes. Et pour nous suivre, c'est @24quarks, et puis la page Facebook, bien sûr, et le courriel 24quarks@gmail.com pour nous écrire. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire la prochaine fois. Là, on est encore en Suisse jusqu'à la mi-août. Enfin, Marie-Louise va être en France. Moi, je suis encore en Suisse jusqu'à la mi-août. Fait qu'on va se retrouver.
Je vais me sauver en France.
Ouais, c'est ça.
Où les choses sont moins chères, j'espère. C'est
wink,
cher,
wink.
Je suis ça. J'ai besoin de travailler en rentrant. Appelez-moi pour du travail.
Puis, c'est ça, on va se retrouver au mois d'août. Là. On va certainement faire un petit épisode au mois d'août. On n'a pas encore décidé quoi, donc ça sera la surprise.
C'est ça.
Donc,
on
pas de bonne annonce pour terminer, mais en tout cas, merci de votre fidélité. Et puis, à la prochaine fois. Bye bye.
À la prochaine. Bye.
Bye.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.